Bon, moi, je travaille sur les déchets urbains. Alors, c'est tout autre chose, c'est la gestion des conflits environnementaux, et plus particulièrement les déchets urbains. Et j'ai vraiment essayé de réfléchir à cette question de l'acceptabilité, voir la façon dont elle peut se poser sur mon domaine des déchets urbains. Et j'ai proposé à l'instant une intervention intitulée « Quoi de neuf ?». Mais en fait, au fur et à mesure que je réfléchissais, je me disais que j'aurais dû dire « Quoi de vieux ?». Parce que finalement, cette notion d'acceptabilité, c'est une question qui n'est pas du tout récente en matière de gestion des déchets urbains. Et ce que j'observe, je dirais que c'est d'abord un changement de réponse. Donc en fait, mon propos va être structuré en trois temps. Dans un premier temps, je resituerai la façon dont cette notion d'acceptabilité elle émerge en matière de gestion des déchets urbains au début des années 90, dans un contexte spécifique de réorientation de la politique des déchets, alors en direction de l'idée d'un bouclage des matières, qui va susciter un certain nombre de conflits et ce que j'appellerai une première vie de l'acceptabilité. Alors plus largement, j'essaierai de montrer comment ce qui me semble être, alors c'est vraiment de l'ordre d'une hypothèse, mais une première vie d'acceptabilité s'inscrit dans un espèce de réseau socio-sémantique qui associe un certain nombre de notions connexes, alors développement durable, modernisation écologique, écologie industrielle, et qui fondamentalement, à mon sens, pose la question de la maîtrise des conséquences des problèmes environnementaux sur les villes. Bon, dans un deuxième temps, je parlerai des inflexions plus récentes que j'ai observées sur un terrain très conflictuel qui est lié à l'incinérateur de la communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole qu'elle a décidé d'implanter sur un territoire du port autonome de Marseille, sur la zone industrielle de Fos. C'est très important, toutes ces précautions. Et donc, à partir de cette observation empirique, j'essaierai de brosser vraiment ce qui me paraît être une deuxième vie de l'acceptabilité, ou en tout cas, de nouvelles formes de contrôle social des marges urbaines. Et enfin, j'essaierai de replacer ces observations dans un cadre plus large au sein de politiques urbaines qui, à mon sens, tentent de naturaliser les fonctionnements urbains. Donc, une première vie de l'acceptabilité en matière de déchets urbains. Alors, comme je le disais, cette notion d'acceptabilité, elle émerge vraiment dans un contexte spécifique, je vais brosser quand même, c'est un contexte de réorientation de la politique des déchets sous l'impulsion de la réglementation européenne et à travers laquelle il s'agit en gros de sortir d'une politique d'élimination parce que, hormis au tournant des années 90, hormis comme quelques pays comme l'Allemagne et les Pays-Bas qui se sont positionnés assez peu sur le recyclage, on est centralement sur une politique qui pratique l'enfouissement, la préoccupation, c'est la collecte et l'enfouissement des déchets. Et donc, le tournant de la politique des déchets dans les années 90 a pour objectif d'intégrer cette politique des déchets dans une politique plus durable, hein, ou plus globale, excusez-moi, de la gestion des ressources. Et en même temps, on va introduire ce qu'on appelle un principe de proximité du traitement des déchets, hein, c'est-à-dire, le but, c'est d'arriver à une régulation territoriale du flux des déchets. Donc autrement dit, ce que je veux dire, c'est que cette notion d'acceptabilité sur laquelle je vais revenir, elle apparaît à un moment particulier, celui dont Barbier et Méry parlent en disant c'est un moment de jonction entre déchets et développement durable, qui renoue avec une vieille idée qui est celle d'un bouclage des matières. Et le renouveau de cette idée de bouclage des matières, il s'inscrit d'abord dans l'essor pris par la modernisation écologique, qui est une notion qui a posé de nombreux débats, mais dont l'idée, c'est quand même qu'il faudrait pousser l'industrie à transformer sa gestion end of pipe des problèmes environnementaux pour un usage plus intégré des ressources qui permettrait justement de réduire les pollutions et les déchets prévus. Et vous voyez, ce que je suis en train de dire, c'est que l'acceptabilité, ça apparaît vraiment sur les déchets quand il y a cette jonction entre déchets et développement durable, et sous l'essor du développement de l'idée de modernisation écologique, c'est-à-dire l'idée qu'il faudrait un peu réorganiser la production et la consommation. Et ce qui est important quand même à saisir, c'est que ce changement d'optique, hein, sur l'industrie, en fait, hein, va être à l'origine d'une génération de travaux sur le bouclage des matières qui va être l'écologie industrielle. L'écologie industrielle, on a en 89 un article de Proche et Galopoulos qui marque un peu l'acte de naissance de cette écologie industrielle, dont des auteurs comme Zemmer et Labrune disent très justement que c'est une réponse des entreprises à la question du développement durable. Mais cette écologie industrielle, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle va avoir un succès très important en Europe et ailleurs, et elle va alimenter de nombreux travaux sur les indicateurs et les techniques de modélisation du développement durable, et notamment sur les MFA, c'est les Materials Flow Analysis, et ces études de MFA dont s'inscrit le concept, dans lequel s'inscrit le concept d'empreinte écologique, eh bien, elles vont particulièrement influencer les politiques européennes de déchets, qui vont être un des premiers secteurs concernés par la mise en place de méthodes comptables de flux de matière. Je renvoie aux travaux d'un chercheur allemand, Stéphane Wingesu, qui a montré le rôle joué par ce courant des MFA dans les débats sur l'efficience environnementale, et particulièrement en Allemagne. Alors, l'Allemagne qui va prendre des mesures très ambitieuses, qui vont confier aux industriels la responsabilité financière et opérationnelle en matière de recyclage des déchets d'emballage. Et ces mesures prises par l'Allemagne, elles vont peser de façon considérable sur la révision de la politique des déchets, et notamment sur la politique française. Mais plus fondamentalement, et plus important, cette écologie industrielle, dont un exemple les plus emblématiques, c'est la fameuse ville de Kalundborg, qu'on cite toujours, petite ville de la mer du Nord, qui réussit au tournant des années 80 à un essor un peu industriel en réalisant un bouclage des matières. Bien, cette écologie industrielle, elle va de plus en plus être transposée aux villes. C'est-à-dire qu'il va y avoir de plus en plus de travaux qui vont considérer le contexte urbain comme une simple extension de l'écologie industrielle. Je pense par exemple à des auteurs comme Cueto et Ruff, qui sont deux chercheurs américains qui ont participé à une série d'ouvrages sur la régénération urbaine et la durabilité urbaine, et qui évoquent l'écologie industrielle comme une théorie unifiée des systèmes urbains. Donc il y a cette transposition. Donc on pense au bouclage des matières urbaines à travers l'écologie industrielle, et on transpose ça aux villes. Et je voudrais faire une parenthèse, c'est qu'il y a vraiment une rupture qui se fait par rapport aux années 60, où on a aussi pensé le bouclage des matières urbaines, mais de façon très différente. Les années 60, ce sont des écologues qui pensent le bouclage des matières, parce que il y a eu des avancées au niveau de la théorie des écosystèmes. La notion d'écosystème, c'est une notion très récente qui permet, dans les années 60, de penser la nature comme un tout qui est régulé par des échanges de matières. Donc les écologues, ils ont découvert la notion d'écosystème. Ils vont la transposer aux villes. C'est les travaux d'Abel Woodman qui fait un premier bilan des entrées matière d'une ville américaine dans les années 65. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je me suis perdue en cours, bon, ça va revenir. Oui, et en fait, ces recherches, elles vont avoir un impact très important au niveau international, parce que UNESCO va mettre en place un certain nombre de programmes, dont le programme MAB Manali Esclair, qui va justement s'intéresser au flux des matières, de tout un tas de villes. Et donc, vous voyez, quand on est au tournant des années 90, et qui ont accaparé une nouvelle génération de travaux sur le bouclage des matières, écologie industrielle, il y a un vrai tournant, parce que, alors que les travaux précédents des écologues, ils transposaient aux villes les principes de cyclicité des écosystèmes naturels, dans une perspective qui était réduire l'impact écologique des villes. Au tournant des années 90, on va dire que c'est désormais la cyclicité des systèmes industriels, les principes de cyclicité de l'écologie industrielle qui sont transposés aux villes et qui vont leur affecter un rôle central à jouer dans le maintien d'un système de production-consommation. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez, on a deux générations de travaux et on passe à des préoccupations qui sont radicalement différentes. C'est gérer les impacts écologiques des villes dans les années 60, et c'est comment on fait pour finalement gérer les conséquences des problèmes environnementaux sur la croissance économique des villes dans les années 90. Donc, pour le dire autrement, on va dire que les références croissantes au développement durable, les perspectives qu'a ouvertes la modernisation écologique, l'écologie industrielle, elles sont consécutives de la réactivation de cette idée de bouclage de matière et d'un changement de regard porté sur les villes. Et ça, ça va rentrer en résonance avec ce que les travaux de Lorrain et Stocker ont montré, la montée en puissance des villes dans les logiques de pilotage des sociétés locales. Ça va rentrer aussi en résonance avec la prise de conscience des maires, les maires qui vont se rendre compte que les réseaux techniques des services urbains, mais ça permet d'attirer des entreprises. Et ça va rentrer en résonance aussi avec l'essor de grands groupes industriels qui vont se positionner finalement sur tous les marchés qui sont liés à la gestion des ressources et des registres urbains. Donc ce que je suis en train de vous dire, en fait, c'est qu'on a une réactivation de l'idée du bouclage qui met au premier plan, dans les années 90, des acteurs économiques et des acteurs urbains. Alors que dans les années 60, on a d'autres préoccupations, et ce sont des écologues qui se sont rapprochés des protecteurs de la nature qui s'interrogent sur le bouclage de la matière. Et donc, c'est dans ce réseau socio-sémantique des années 90 que va apparaître la notion d'acceptabilité. Alors, je ne vais pas développer sur la façon dont cette réorientation de la politique des déchets, on ne met pas du tout en cause une production massive des déchets, ni la façon dont, en France, elle va venir soutenir le développement d'un marché qui va être celui de l'incinération. Bon. Qui va en plus connaître l'incinération à regain d'intérêt dans les années 2000 avec la problématique du changement climatique. Bon. Mais je dirais que c'est vraiment donc dans ce réseau socio-sémantique dont je vous parlais que va apparaître, face à ce modèle de gestion, que va apparaître la notion d'acceptabilité face précisément à une multiplication de conflits suscités par l'implantation d'incinérateurs, bon, sur toile de fond de crise sanitaire, mais notamment celle des dioxines dans les années 2000. Mais bon, je vais pas rentrer là-dedans. Mais donc, les déchets vont devenir à ce moment-là un problème d'acceptation sociale. Et quand on parle d'acceptation sociale, qu'est-ce qui est souligné? C'est l'ignorance, l'irrationalité, l'égoïsme des populations. On est sur un modèle de diffusion, contagion d'idées négatives liées à l'incinération. On a des interprétations en termes NIGI qui font florès. C'est-à-dire qu'on observe ce que Rococo avait observé pour les QACI, c'est-à-dire une appréhension inversée du risque, dans laquelle la contestation sociale attire, focalise l'attention de décideurs qui affichent une croyance totale dans la fiabilité des techniques et des solutions qui sont préconisées. Et pour résoudre, donc vous voyez, première vie acceptabilité, et pour résoudre tout ce problème de conflit, il va y avoir toute une série d'innovations qui vont apparaître, essentiellement procédurales, c'est-à-dire on va mettre en place une obligation d'informer, alors que ce soit l'État, les collectivités ou les exploitants d'installation, les populations sur les effets sanitaires et environnementaux des installations. On va mettre en place des CLIS, les commissions locales d'information et surveillance, une concertation multi-acteurs au sein des plans départementaux à l'époque, jusqu'à la mise en place, et ça va aller jusqu'à la mise en place d'initiatives, par exemple comme des jurys citoyens locales qu'étudie Rémi Barbier dans les Côtes d'Armor. Bon. Alors il y a eu beaucoup de travaux, je pense à ceux de Rocher, de Bouquet, de Barbier, qui ont souligné la faiblesse de ces initiatives locales, soit parce que les associations de défense de l'environnement sont marginalisées, et qu'on a aussi des chambres consulaires et des opérateurs privés qui investissent les commissions d'information pour faire du lobbying en faveur des installations lourdes, soit parce que, on va dire que cette institutionnalisation de la concertation, elle tient vraiment vers un volet du cerveau pédagogique. Alors, plus fondamentalement, il me semble qu'un certain nombre d'éléments de contexte invitent à reconsidérer cette première vie-là de l'acceptabilité, qui est sous-tendue par une logique de pédagogie démocratique, et me pousse à émettre l'hypothèse d'une deuxième vie de la notion d'acceptabilité, alors toujours destinée à répondre aux conflits, mais beaucoup plus tournée vers une scientificisation, dépolitisation des problèmes posés par les déchets urbains que vers leur mise en débat. Alors, pour évoquer cette seconde vie, je vais partir vraiment d'une contribution empirique, parce que c'est une contribution empirique à l'évolution de cette notion d'acceptabilité, à partir d'un dossier que je connais bien, qui est celui de Fosse, qui est exemplaire à mon sens de trois éléments. D'abord parce que c'est un dossier qui est exemplaire des recompositions des formes de mobilisation sociale dont je vais parler, mais également de la longue transition vers une gestion dite durable des déchets de la plupart des collectivités. Et puis le projet d'incinérateur à Fos, il s'inscrit plus largement dans un projet d'éco-parc destiné à favoriser à l'époque l'implantation d'industrie sur la zone. Alors, quels sont les éléments qui m'incitent à considérer un deuxième temps de la notion d'acceptabilité en matière de déchets? Je dirais qu'il y en a trois que je vais ensuite un peu détailler. Premièrement, c'est des transformations, des formes de mobilisation de l'action collective qui vont mettre à l'épreuve les présupposés d'irrationalité et de défaut civique de la première du premier moment de l'acceptabilité. Deuxième élément, ce sont des dynamiques de recomposition des territoires qui, on va dire, empêchent complètement une régulation territoriale, qui font renouer les acteurs avec une vieille logique de mise en périphérie des installations. Et enfin, un troisième élément qui m'incite à considérer un deuxième temps d'acceptabilité, ce sont les réponses institutionnelles qui ont été apportées à ces mobilisations et aux problèmes de cumul de pollution et d'inégalité socio-spatiale qu'elles soulèvent. Donc, alors je vais un peu reprendre. Je dirais que, outre leur longue durée, ces mobilisations, elles présentent certains traits spécifiques qui vont mettre en effet à l'épreuve les présupposés d'irrationalité, de défaut civique, sur lesquels reposaient les dispositifs de pédagogie démocratique évoqués précédemment. Alors, pour quelle raison? D'abord parce qu'on a des mobilisations dont la composition est extrêmement diversifiée, c'est-à-dire on n'est pas face qu'à des nibis ou des écolos, on a plutôt des coalitions horizontales d'acteurs qui sont marquées par un ancrage et un attachement local extrêmement fort, et en même temps par des socialités différentes, c'est-à-dire qu'on trouve... qui on trouve dans ces mobilisations, je reviens de surposte, mais des riverains d'installation, des professionnels de l'industrie, de la santé, de l'agriculture, de l'environnement, des militants associatifs et politiques. Alors, par exemple, dans la mobilisation observée contre l'incinérateur de Fos, le premier collectif, le collectif citoyen santé-environnement, il est créé à Port-Saint-Louis, qui est une petite commune ouvrière qui est marquée par des luttes de dockers. Et il est monté à l'initiative d'habitants qui sont originaires de la ville, qui se connaissent de longue date et qui sont cheminots artisans. En outre, parmi les trois collectifs mobilisés, on trouve deux médecins locaux, des employés de l'industrie pétrolière et chimique, un employé du port autonome, des représentants des comités de fonds de groupe. Donc vous voyez un peu cette composition hétérogène. Deuxième chose, c'est que ces acteurs mobilisés, ils se livrent à un travail qui est à la fois cognitif et politique. C'est-à-dire qu'en fait, bon, je ne développerai pas, mais ils font un travail d'enquête, ils interviennent dans l'espace public, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont concurrencer complètement les formes de surveillance, d'évaluation, les dispositifs de concertation et les solutions, y compris les projets techniques, qui sont préconisés par les acteurs institutionnels. Et en plus, ils font ça, je dirais, alors là aussi très rapidement, en mobilisant des registres de connaissances qui ne sont pas seulement ceux de l'expertise. C'est-à-dire qu'en fait, on va dire qu'ils convoquent des savoirs qui sont expérientiels, perceptifs, liés au cadre de vie quotidien, et qu'ils confrontent finalement à des savoirs scientifiques, techniques, qui sont produits par les polluants émis par l'incinération et les effets sur la santé. C'est-à-dire qu'on a affaire à des mobilisations qui sont décentralisées ou tournées vers des problèmes locaux et elles procèdent d'une double mise en cause, c'est-à-dire qu'elles procèdent à la fois de solutions techniques sectorisées qui sont conçues face au problème des déchets et également des formes d'évaluation scientifique des impacts sanitaires et environnementaux de ces solutions. Très vite dit, ces mobilisations, finalement, elles vont raccorder la question des cocktails de molécules qui sont générés par les incinérateurs aux questions de risque faible, de risque sans seuil, qui sont soulevées par la notion de santé environnementale, hein, et qui remettent complètement une gestion des polluants par les normes. Ce sont des mobilisations qui procèdent aussi de la mise en cause d'un environnement proche dans lequel interviennent des problématiques localisées de cumul de pollution, de risques sanitaires qui viennent se surajouter à des inégalités socio-spatiales. Alors, autre élément qui interroge sur la notion d'acceptabilité, je vais peut-être accélérer, je dirais que ce réseau, c'est qu'en même temps, on va dire que à l'heure actuelle, on a des dynamiques à la fois sociales et territoriales qui montrent que ces cumuls d'inégalités, ils se déplacent à l'heure actuelle à l'échelle d'un processus de métropolisation qui est éclaté en pôles urbains concurrents. Et c'est particulièrement le cas à Marseille à l'époque, hein, quand elle lance son projet contre l'incinérateur, on va dire que Marseille connaît un déclin démographique et économique important au profit d'un développement assez inégal et multipolaire de sa périphérie, qui va la conduire à réinvestir son centre-ville, son arrière-port, à chercher à acquérir des fonctions métropolitaines supérieures, hein, et dans le même temps, à réactiver ce vieux projet d'incinérateur, qui, bon, en réalité, date des années 70, sauf que, à la fin des années 90, la région phocéenne, hein, elle enregistre des signaux de déclin, assez importants, parce que même si l'emploi industriel reste le prédominant, elle connaît une panne de son essor industriel, une désaffection pour les métiers d'industrie, elle est confrontée à une sensibilité écologique croissante, etc. Donc on a tout un ensemble de dynamiques, si vous voulez, qui finalement rendent un peu caduques. On a des acteurs qui sont compétents, qui sont altruistes, hein, c'est-à-dire qui s'investissent, hein, finalement. Et puis on a également un processus de métropolisation qui déplace la question des inégalités. Donc finalement, les réponses qui étaient apportées par une première génération de la notion d'acceptabilité, on va dire qu'elles sont plus valides, à mon sens. Hein. Et il me semble possible d'envisager un nouvel essor, dont je peux essayer de brosser les caractéristiques à partir de ce que j'observe sur le terrain, au niveau des réponses qui ont été apportées par les institutions à ces mobilisations. Alors, il y a trois demandes qui ont été formulées par les mobilisations observées. Il y avait une demande politique, c'était la consultation des habitants sur le choix, le devenir de leur région. Une demande technique, le recours à des techniques alternatives. Et une demande, en fait, scientifique, à savoir un état des lieux sanitaire et environnemental de la région. Et sans trop entrer dans le détail, on observe une inégalité, non seulement une inégalité des réponses, mais un écart disproportionné entre les réponses qui ont été apportées aux demandes politiques et techniques et à la demande sanitaire et environnementale. Bon, je m'étalerai pas, mais sur la question de la mise en débat au tournant des années 2010, la Commission nationale du débat public a elle-même fait un bilan qui est sans équivoque, hein, sur la façon dont la consultation a été largement insuffisante. Quant au recours à une autre technique, bon, la société devrait en 2012 obtenu une augmentation de sa capacité d'incinération, donc ça parle tout seul. Ce qui me semble intéressant par contre, c'est l'importance, hein, alors aussi bien financièrement qu'en initiative, des réponses qui ont été apportées à la problématique de santé environnementale, puisque dès 2005, on a eu trois études sanitaires globales, un groupe de travail qui a été mis en place par le secrétariat permanent pour la prévention des pollutions industrielles sur les dioxines, une étude de mortalité menée par l'INSERM, hein, mais plus important encore, il y a une espèce de repositionnement des collectivités locales, particulièrement du syndicat Ouest Provence, hein, sur la connaissance du territoire. C'est-à-dire qu'on va avoir des collectivités locales de la région phocéenne qui vont chercher à développer leurs propres moyens d'expertise contre les moyens d'expertise qui avait été mis en place dans les années 70, hein, au moment de la création de la zone industrielle de Fos, par l'État. Et alors, bon, je ne vais pas développer parce que ça serait trop long, mais disons que sur Fos, on a à l'époque le syndicat contre la prévention des pollutions industrielles, qui est un organe de concertation qui a été mis en place par l'État en 71, hein, et qui rassemblait l'État et les industriels. Et puis on a, d'un autre côté, dans un lien structurant assez fort, un réseau de surveillance de l'air, AirProbep, qui est une association qui est initialement financée par les industriels. Hein. Bon, dans le contexte de la crise liée à l'incinérateur, le SAN, donc le syndicat Ouest Provence, va vouloir monter ses propres moyens d'expertise, c'est-à-dire qu'il va monter un institut éco-citoyen, il va mettre en place un programme de surveillance de la pollution, alors air, sol, eau, en fait, hein. Et en outre, ces nouveaux dispositifs de connaissance localisés, hein, centrés sur la connaissance du territoire, ils vont s'accompagner de la création de nouveaux modes d'observation et de collecte des données, qui ne sont pas du tout anodins à mon sens. Il va y avoir ce qu'on appelle l'observation citoyenne de l'environnement, qui vise, alors c'est conçu avec un partenariat avec le ministère, hein, et ça vise à avoir une mesure profane sur l'état des milieux naturels, et ça, ça fonctionne sur la base volontariat, hein, des individus qui se portent volontaires pour justement observer, mesurer l'état de l'environnement. Et il y a le témoignage de santé environnementale. Et là encore, c'est une action individuelle qui s'adresse aux personnes qui présentent une pathologie aux origines environnementales probables. Alors, il y a deux façons de considérer ces initiatives qui sont des initiatives de dispositifs de connaissance localisés. Soit on se dit, c'est la version de ça, là, que ce sont des dispositifs, des outils qui vont mettre en visibilité les conséquences sanitaires et environnementales des choix faits, qui vont donc, parce qu'elles mettent en visibilité les conséquences des choix qu'on fait, elles vont renforcer les interdépendances entre les acteurs. Bon, on peut voir les choses comme ça. Moi, ce qui me paraît important de souligner, c'est que la mise en place de ces dispositifs, elle s'est faite au détriment des associations et des acteurs engagés dans la mobilisation, qui ont pourtant été les premiers à penser à la possibilité d'un institut éco-citoyen, c'est-à-dire que les citoyens ont eu leur partie, leur mot à dire, et des acteurs engagés dans la mobilisation qui ont participé au programme EGRET qu'avait lancé le SAN antérieurement. Hein. Donc, et en plus, donc il y a une mise à l'écart. Donc on crée des dispositifs localisés de connaissances, mais en même temps, on met à l'écart les acteurs collectifs qui sont pourtant à l'origine même, hein, de la demande de ces dispositifs-là. Et par ailleurs, la caractéristique de ces nouveaux dispositifs de connaissances, me semble-t-il, c'est qu'ils promeuvent une logique individualisante d'action et de surveillance. Et donc, ça veut dire aussi que non seulement ils favorisent une dépolitisation, scientificisation des questions de santé environnementale, mais aussi un démantèlement de la contestation. Et plus fondamentalement, il me semble qu'ils marquent un déplacement dans lequel la participation des individus est attendue, d'espaces de concertation mis en débat, à des dispositifs de production d'un savoir sanitaro-environnemental, auxquels on invite les individus à participer en tant que fournisseurs de données. Hein. Voilà, on va mesurer si vous avez tel ou tel polluant. Et ça, tout en faisant l'économie d'un débat sur un projet de territoire partagé. Donc, voilà, à mon sens, il semblerait que ces dispositifs-là, leur mise en œuvre, elles soient bon, déjà moins centrées sur une réelle transformation du métabolisme urbain, de ses rejets, de ses prélèvements, que sur une sorte de gouvernement du corps et des esprits des habitants de ces marges, ce qui, pour le dire autrement, pour moi, s'apparente à de nouvelles formes de contrôle social qui transforment la science en facteur d'acceptabilité pour de vieilles solutions et qui cible les espaces périphériques et urbains sans changer les logiques présidant à leur polarisation aussi bien sociale, environnementale et sanitaire. Voilà ce que serait pour moi une deuxième vie de la notion d'acceptabilité, hein, qui resterait un peu, voilà, un peu moins grand. empirique hein, comme réflexion. En guise de conclusion, ou plutôt d'ouverture, j'aimerais souligner à mon sens que ces formes de contrôle social qui ciblent les marges et les franges urbaines, à mon avis, elles sont aussi indissociables de politiques urbaines qui tentent de réintroduire la nature en ville, dans les centres-villes. C'est-à-dire que je pense qu'il faut vraiment considérer en même temps les deux facettes. Hein. C'est-à-dire que bon, ces dernières années, on a vu se développer, d'ailleurs, on a vu une espèce de verdissement des politiques urbaines menées au nom du développement durable en direction de politiques qui visent à réintroduire la nature en ville, dont des travaux, alors je pense par exemple à ceux d'Arlette Serra qui ont été menés sur le parc national des Calanques à Marseille et qui montrent que fondamentalement, on a affaire à des politiques qui sont productrices de ségrégation sociale. Hein. Et qui donc, on va dire, elles ont une fonction un petit peu d'invisibilisation à la fois des inégalités dans la ville, mais aussi, ce que je voudrais dire, c'est que ces politiques qui introduisent la nature en ville, elles ont aussi une fonction d'invisibilisation des espaces urbains qui sont polarisés, et dans lequel, là, s'il y a des formes de contrôle social là, qui sont différentes. Ou alors, si je devais encore reformuler, il me semble qu'il y a deux vitesses. C'est-à-dire que dans les centres-villes, on se préoccupe, pour certains groupes sociaux, d'introduire de la nature en ville, pour rendre la ville en ville plus vivable, plus agréable, c'est-à-dire qu'on est dans une idéologie de la ville-nature. Hein. Et d'un autre côté, dans les espaces marginaux, périphériques, hein, eh bien là, on inaugure des dispositifs qui finalement visent à démanteler la contestation. Quoi, hein, et bon, voilà. Un peu en gros la façon dont j'aurais à problématiser. Hein, c'est vraiment inabouti, j'ai l'impression, mais voilà, un petit peu la façon de voir les choses. Je vous remercie.